If any member of the family should die whilst in the shelter from contamination, put them outside. But remember to tag them first for identification purposes. Mine is the last voice that you will ever hear.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est La Musique à Douce Limeur sur Radio Air Libre. Comme chaque semaine, même heure, même endroit, le vendredi de 9 à 10, rediffusion le samedi de 14 à 15 heures. En fond sonore, pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui et son programme, Stan Getz et Paul Horn dans Nature Boy. Et aujourd'hui, ce sera une émission un peu spéciale, comme vous allez voir, je vais vous en parler dans un instant. Avant ça, vous rappelez que La Musique adoucit les mœurs, c'est chaque semaine, effectivement, sur Radio Air Libre, avec comme thème principal la paix, la recherche de la paix et de la non-violence, et cela se décline sur toutes les façons possibles et imaginables, souvent, très souvent même sous forme de dossiers. On vous en présente deux ou trois sujets par émission, et puis de temps en temps, on fait également des émissions, j'allais dire extraordinaires, non, des émissions spéciales sur tel ou tel thème, ou par exemple des choses qui ont trait à l'histoire de la paix ou de la guerre, l'histoire aussi du mouvement de la paix. Et aujourd'hui, précisément, on parlera des essais nucléaires français dans le Pacifique, plus précisément en Polynésie française, à partir d'un document de Renaud Meltz paru sur le site de la Vie des Idées. Le secret et les mensonges autour des essais nucléaires menés en Polynésie et de leurs effets délétères n'ont cessé de nourrir suspicion et rancœur à l'égard de l'État en raison des entorses faites à la démocratie dans les territoires issus de la colonisation. C'est ce qu'écrit Renaud Meltz en entrée, en cartouche, en chapeau de son texte triste secret consacré donc aux essais nucléaires en Polynésie française. On parle souvent des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki qui ont fait de nombreux blessés, morts et handicapés directs, on va dire. On parle moins des essais nucléaires qui ont précédé ou qui ont suivi Hiroshima et Nagasaki et qui ont souvent été faits au détriment des populations civiles. Que ce soit dans le Pacifique, que ce soit en Algérie, que ce soit dans d'autres parties du monde, en fonction des gens faisant des essais, que ce soit en URSS, aux États-Unis, ou alors dans des îles bien précises. Et il y a un cas célèbre où les choses ont très mal tourné et où les populations ont dû fuir en dernière minute. Il s'agit de l'île de Bikini. Et précisément, le 12 juillet 1946, Rose Mania enregistrait la chanson Bikini que je vous propose d'écouter en entrée de jeu, en apéritif, en quelque sorte. Rose Mania.
pacifique, tu emportes avec toi mon cœur. Prends garde à la bombe atomique, mon espoir est dans ton moteur. Bikini, 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 to be or not bikini, bikini, bikini. Récif radioactif, tu réussiras chérie, pilote au raid hardi. Bikini, 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 atoll au ciel du bikini, bikini, bikini. C'est fou, cher casse-cours, tu vas lâcher ton joujou qui doit démolir tout. Tout, c'est le coin rêvé où s'élevaient sous les palmiers toutes les senteurs des jolies fleurs. Bikini, 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 boum boum, aïe aïe aïe, bikini, 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 goodbye, adieu, goodbye, mon oiseau revient au nid, and it is fini.
Rosemania donc avec Bikini, poursuivre et entamer le sujet d'aujourd'hui, une symphonie, la première d'ailleurs, de João Domingos Bontempo. Alors il est né à Lisbonne en 1771 d'un père italien et vous allez voir, ces symphonies peu connues sont tout à fait intéressantes à écouter, bien agréables à écouter en tout cas. Triste secret, c'est le titre que Renaud Meltz a donné à son étude sur les essais nucléaires en Polynésie française et paru dans La Vie des idées, site où on publie souvent des choses dans différents domaines de la pensée, également dans des sujets plus historiques comme celui d'aujourd'hui, qui revient sur un sujet que très peu de gens connaissent, y compris en France, malgré que c'est dans leur pays que cela s'est passé. Pendant la 4e République, écrit Renaud Meltz, le programme français d'armement atomique reste secret. Si de Gaulle place l'atome militaire en pleine lumière, au centre de son projet de relèvement national par la recherche scientifique et le développement technologique, c'est que les États-Unis maintiennent leur refus de partager leurs secrets nucléaires. Formalisé par le McMahon Act de 1946 et décline poliment la suggestion d'un directoire nucléaire à trois formulé en juillet 1958. Le général fait désormais de la constitution solitaire d'une force de frappe le fondement d'indépendance stratégique de la France et de sa politique étrangère non alignée. Cette ambition de résister à la bipolarisation du monde oblige à réinventer le patriotisme impérial français en pleine décolonisation. Au moment de déterminer un nouveau site d'essai ultramarin pour relayer les installations algériennes à Reagan, des tirs aériens, et à In Ecker, des tirs confinés dans le massif du Hoggar, et anticiper la fin du bail de 5 ans négocié avec les accords d'Évian, le choix de la Polynésie et la création du Centre d'expérimentation du Pacifique, le CEP, aussi entre mise en scène d'une entreprise nationale et politique du secret. Cette dernière renoue avec l'arbitraire colonial, depuis le choix du site jusqu'aux impacts sanitaires et environnementaux des essais. Comment concilier l'implication de la société polynésienne dans l'entreprise du CEP pour éviter le reproche d'entreprise néocoloniale avec l'exigence de séparation consubstantielle au secret? Il s'agit en effet de protéger la confidentialité des armes mises au point, encore exceptionnelles, trois pays sont dotés, mais aussi d'occulter le péril des expérimentations pour les populations riveraines des sites mises devant le fait accompli, puis de dissimuler les échecs à contrôler les retombées et leurs conséquences sanitaires. Et donc la France va choisir, comme d'autres pays, le secret. Secret en n'informant pas les populations concernées, premièrement, du risque ou du fait qu'on faisait des essais de type nucléaire. Deuxièmement, en ne les informant évidemment pas des conséquences sanitaires que ces essais pouvaient avoir sur la nature d'une part, sur la santé des populations d'autre part. Et il s'agit bien de ça dans tous ces essais, qu'ils soient faits par la France ou par d'autres pays. Il y a des, comme on dit, des volontaires désignés, des gens qu'on envoie dans des exercices militaires, par exemple, sans les informer du danger ou en minimisant très très largement l'effet des radiations de ces essais nucléaires. Le secret continue de produire ses effets dans la société polynésienne, écrit Renaud Meltz, et alimente suspicion et rancœur à l'égard de l'État. Il pose la question de l'exceptionnalité du nucléaire combinée à la singularité des politiques démocratiques dans les territoires qui ont été colonisés. La reprise en main de la Polynésie française, commencée avec la création du CEP, est présenté sous le jour d'une association des Polynésiens à la constitution de la dissuasion nucléaire, constitutive de l'indépendance de la France, dont de Gaulle réinvente le patriotisme sous le signe de l'anti-impérialisme. Maurice Agulon en avait parlé dans son ouvrage De Gaulle, Histoire, Symbole, Mythe en 2000. Impérialisme donc, ou plutôt anti-impérialisme de Gaulle. Il voulait jouer cavalier seul, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs par rapport aux autres. Et on l'a également vu au niveau de l'OTAN, bien entendu, lorsque la France s'est retirée, sous l'impulsion du général de Gaulle, du commandement militaire de l'OTAN. Ce qui a entraîné, comme vous le savez, le transfert du siège de l'OTAN à Bruxelles. L'histoire des essais en Polynésie mêle en réalité regain impérial dans un territoire susceptible d'échapper à la souveraineté française et opportunité de développement sous le signe d'une modernisation, rompant avec une forme de dédain colonial, écrit Renaud Meltz. Prenons le choix du site en 1961-62 qui a abouti à la décision de construire deux polygones de tir dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, au Tuamotu, arrêté au Conseil de défense du 27 juillet 1962, sans que la population en ait été avertie. En aurait-il été autrement sur un site en métropole? La réponse peut faire l'économie d'une histoire contrefactuelle. Le projet de site en Corse a avorté en mai 1960 du fait de fuites locales et de mobilisation des élus corses, offrant un élément de comparaison instructif. J'ajoute qu'à l'époque, en début des années 60, donc 61-62, c'est également l'époque où les essais nucléaires ont toujours lieu en Algérie, bien entendu. Et c'est pour, comme on l'a dit dans l'introduction, pour trouver un nouveau site suite au fait que l'Algérie, la souveraineté de l'Algérie sur l'ensemble de son pays, de son territoire allait être rétablie prochainement, qu'il a fallu trouver un autre site pour les essais nucléaires. Donc, pas en Corse, mais en Polynésie. L'autre secret, écrit Renaud Mels, l'autre secret qui polarise la colère actuelle des Polynésiens concerne le gouvernement du risque par les militaires chargés de conduire les essais aériens. Essais qui ont eu lieu entre 1966 et 1974. Après, ce seront des essais souterrains. Après avoir dissimulé les risques de retombées contaminantes, en surestimant leur maîtrise des aléas avant la première campagne, ils choisissent de dissimuler leur échec, avéré dès le premier essai, le 2 juillet 1966. De proche en proche, le secret conduit à de complets mensonges qui privent les opérateurs des essais de certains outils qui auraient permis de limiter les conséquences sanitaires des tirs. Pas d'évacuation préventive qui signalerait le péril en amont de la première campagne, renoncement aux évacuations curatives prévues qui auraient obligé à concéder l'échec, à déjouer le risque dès le premier essai, décision de retarder la construction d'abris au gambier qui aurait permis de protéger les populations exposées. Et donc, Renaud Mels fait référence à un travail collectif qui a été publié au printemps 2022 et qui analyse plus particulièrement cet aspect des choses. On est donc en Outre-mer et le choix d'un site ultramarin, donc Outre-mer, concerne en fait 200 000 personnes. Donc ce secret concerne 200 000 personnes, nous dit Renaud Mels. Il l'écrit plutôt dans son texte. Le processus, écrit-il, qui a conduit au choix de la Polynésie française, difficile à documenter du fait de son caractère sinueux, selon les évolutions des besoins techniques, bombes A ou H, essais aériens ou souterrains, et des contraintes politiques, c'est-à-dire tolérance évolutive aux essais atmosphériques, s'est voulu à contre-courant de la logique impériale du monde bipolaire de la guerre froide. Le concepteur du CEP, le général Thierry, explique sur le vif, en ce qui concerne notre implantation à Tahiti, l'idée directrice doit être d'éviter un séparatisme absolu, genre force américaine en Europe, et au contraire d'intégrer le plus possible notre entreprise dans l'économie du territoire. Celui qui dirige le commandement interarmé des armes spéciales a souffert de l'américanisation de l'Europe après la libération. Il choisit presque seul la Polynésie au début de l'année 1962. Son choix s'inscrit dans une logique politique qui le dépasse et des représentations largement partagées. Nucléariser la Polynésie paraît d'autant plus acceptable que le Pacifique a déjà été le théâtre des essais américains et britanniques, et d'autant plus souhaitable que l'État veut lancer la présence française dans la région, ou relancer plus exactement, tandis que les militaires se réjouissent d'opérer dans un cadre réputé paradisiaque. L'historien se trouve confronté au paradoxe d'une entreprise secrète qui organise la mise en scène mondiale de l'acquisition de l'arme et valorise la mise en contact de la société polynésienne avec une entreprise industrielle aux conséquences multiples. Alors, généralisation du salariat, nouvelle mobilité professionnelle, émergence d'une société de consommation, accès aux ressources matérielles et culturelles de la culture européenne, ça va de la nourriture à la santé en passant par l'affirmation individuelle. Alors, également transformation de l'environnement et du rapport de l'homme à la nature. Cette mise en contact mobilise d'un côté 80 000 Polynésiens impactés par le CEP, qu'ils travaillent pour l'entreprise ou que leur lieu de résidence soit plus ou moins concerné par les retombées des essais. De l'autre côté, quelques 110 000 personnes venues de métropole et même du Portugal qui participent à la construction des installations de 1963 à 1966, puis à la mise en œuvre des essais de 1966 à 1996. 110 000 personnes donc. Dire ce qui a été caché à autant de personnes, documenter la diversité des accès à l'information, les situations de mise en danger faute de publicité des périls, se complique par la difficulté de documenter l'organisation du secret, écrit Renaud Melz. Les sources, 60 ans après le choix du site, puisque c'est en 1962, demeuraient largement inaccessibles, même lorsqu'elles ne recelaient aucun secret militaire. Depuis plus d'une vingtaine d'années, les historiens du contemporain se sont saisis de la question des archives soustraites à l'investigation scientifique pour des raisons de droit et de pratique administrative. La singularité de l'accès à notre passé nucléaire tient à la loi de 2008 qui a organisé l'incommunicabilité définitive pour ce qui relève d'informations susceptibles de faire proliférer l'arme nucléaire en contradiction avec les engagements internationaux de la France, suscitant cet augure de l'historien Maurice Vaïs au terme d'une cartographie des travaux sur l'atome militaire. Donc Maurice Vaïs dit « Ce bilan historiographique pourrait, si l'on y prend garde, prendre l'allure d'un avis de décès. » Fin de citation. La loi a défini le caractère proliférant d'une source comme permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques ou chimiques, mais tous les chercheurs ont éprouvé dans leur pratique que le périmètre d'application s'est dilaté de telle sorte qu'il est devenu impossible d'écrire une histoire du CEP, fût-elle par le bas, centrée sur la matérialité de l'organisation des essais industrie venue de métropole, qui a mis en relation deux mondes. Les choses se compliquent encore si l'on considère que le projet d'écrire l'histoire du CEP procède d'une commande publique, écrit Renaud Melz. Plus exactement, d'une collectivité d'outre-mer, la Polynésie française, pays d'outre-mer, qui a financé un programme de recherche à partir d'octobre 2018. Recherche historique, donc pas de recherche nucléaire. Le projet a contrarié les autorités étatiques, engagé dans un laborieux processus d'élaboration d'un centre de mémoire, voire d'un centre d'archives, celle-là même qui demeurait inaccessible. Les demandes de consultation de sources régaliennes ayant trait au CEP sont devenues un enjeu politique entre le gouvernement de la Polynésie française et les autorités de l'État. Je vous rappelle que quand je parle de CEP, ce n'est pas un certificat d'études professionnelles, mais bien le Centre d'expérimentation du Pacifique. La légitime aspiration d'un territoire à accéder à la connaissance de son passé s'est heurtée au scellement des archives qui redouble depuis 2008 le secret imposé par les autorités de l'époque, exacerbant la défiance et suscitant une prolifération de récits largement mythologiques. L'absence de transparence sur le processus de choix, marqué par un esprit néocolonial, gouverneur de la Polynésie expulse du territoire les journalistes susceptibles de dévoiler l'information, et donc cette absence de transparence a conduit à interpréter toutes les manifestations de reprise en main de la Polynésie française par l'État, antérieures au CEP, comme les indices d'une décision de nucléariser la Polynésie prise sous la 4e République. Fallait-il l'exceptionnalité de l'arme atomique pour expliquer ce regain impérial ? Le secret et l'inaccessibilité des sources concourent à tout réduire à cette causalité atomique. Faute de contrôle historiographique appuyé par des sources, le secret de la décision polarise toute l'attention et suscite la production de causalités imaginaires. Le récit cherche des signes avant-coureurs. L'explication se fait à rebours de la décision de 1962 et l'histoire se fait prédestination jusqu'à faire remonter le choix du CEP au voyage privé du général de Gaulle à Tahiti en 1956 pendant sa traversée du désert. C'est avant de revenir en 58 avec son, on va dire, son coup d'État qui amènera la naissance de la Ve République, un régime non plus parlementaire, mais un régime présidentiel qui est toujours le régime en place en France à l'heure actuelle. On lit dans l'encyclopédie de la Polynésie en 1990, à propos de ce séjour de Gaulle en 1956, de Gaulle envisage, du moins le laisse-t-il supposer, le transfert possible du centre d'essai atomique de l'Algérie vers la Polynésie. Lequel centre algérien, à l'été 1956, n'existe pas encore et pour cause, le site n'a pas seulement été prospecté à cette date, il le sera en janvier 57 par le général Ailleret. Les témoignages oraux renforcent cette version. Le riche rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée de la Polynésie française, préparé par le militant pacifiste et antinucléaire Bruno Barrio, premier socle historiographique fondé sur des entretiens oraux en attendant l'ouverture des archives, produit par exemple en 2006 le témoignage de Jean Juventin, ancien maire de Papeete et député. Donc son témoignage, c'est lorsque le général de Gaulle vint le 30 août 1956 à Papeete, il profita de son passage dans la région pour anticiper le projet d'installation du CEP en Polynésie. À Paris, ce projet devait être en préparation sans qu'on demande l'avis des autorités polynésiennes. Juventin se souvient à raison d'un discours prononcé par le général évoquant l'avenir nucléarisé du monde. Seulement, de Gaulle imagine Tahiti non pas en base arrière d'un centre d'essai, mais en sanctuaire d'où l'on pourrait redémarrer l'aventure française en cas d'anéantissement du territoire métropolitain, par analogie avec la débâcle de 1940. Dans ses publications pionnières sur le sujet, écrit Renaud Meltz, publication où il a progressivement pris ses distances avec l'idée d'un site polynésien conçu par le général en 1956, l'historien Jean-Marc Regnault propose de son côté une chronologie qui fait coïncider le choix du CEP avec la décision de construire l'aéroport de Tahiti début 1957, ce qui l'incline à corréler la mise à l'écart de Pouvana, militant hostile à la reprise en main du territoire en 1956, avec le choix du futur site d'essai. L'arbitraire de l'arrestation ne fait aucun doute. Nul ne saurait contester la réhabilitation judiciaire du Métua, c'est-à-dire le parent dans le sens métaphorique de père de la nation, réalisé grâce aux travaux de notre collègue. Mais la nature exceptionnelle du nucléaire et la volonté de combler les ellipses documentaires qui procèdent du secret d'État conduisent à relier des événements qui n'ont aucun lien de causalité directe. Le combat mené contre la barbouzerie que constitue l'éviction de Pouvana a permis de rouvrir une histoire nucléaire que les autorités auraient voulu fermer. Son arrestation doit nous conduire à interroger la nucléarisation de Tahiti non pas comme une cause du regain impérial en Polynésie, mais comme une modalité nouvelle aux moyens humains et financiers inédits, d'une reprise en main postcoloniale dont les premiers signes préexistent au CEP dans les domaines politiques, économiques, linguistiques, à l'instar de la construction d'un aéroport. Les archives montrent que la décision de construire un aéroport international à Tahiti, assortie de terrains secondaires, a été prise en 1956-57 pour intégrer l'espace polynésien aux flux aériens mondiaux, en vue d'un développement par le tourisme appelé à prendre le relais de l'exploitation des mines de phosphate dans l'atoll de Makatea, au Tuamotu déjà, sans lien avec un projet de polygone de tir dans la région. une raison politique s'enchâsse dans le motif économique. Défendre la souveraineté française dans un Pacifique que les Américains nucléarisent de leur côté. C'est la dimension nucléaire du dossier. En avril 1957, la réunion interministérielle qui décide du financement de l'aéroport assoit sa décision sur trois objectifs progressivement stabilisés par les échanges entre les affaires étrangères, l'outre-mer et l'aviation civile. 1. Développer le tourisme. 2. Capter les liaisons intercontinentales dans le Sud-Pacifique. 3. Assurer par-dessus tout le maintien de la présence française dans la région. La décision du 7 mai 1957 ne concerne pas les ministères de la Défense ou de la Recherche qui n'ont jamais été destinataires des échanges. Preuve a posteriori que les militaires qui ont préféré un site d'essai en Algérie au début de l'année 1957 ne sont pour rien dans cette réaffirmation de la présence française en Océanie à travers l'aéroport. Le rapport des contrôleurs des armées chargés d'inspecter le chantier du CEP observe en 1965 à propos de l'aérodrome de Tahiti-Faa, que sa réalisation est antérieure aux autres et est indépendante du Centre d'expérimentation du Pacifique.
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Jacques Brel, bien sûr, dans la musique adoucit les mœurs, sur Radio Air Libre. Et on va continuer avec en fond sonore la symphonie numéro 2 de João Domingos Bontempo, toujours l'orchestre de l'Algarve sous la direction d'Alvaro Casuto, qui va nous permettre d'aborder la deuxième partie de ce document triste secret sur les essais nucléaires en Polynésie française. Un travail de Renaud Mels, assez documenté, comme vous pouvez vous en rendre compte déjà après la première partie. Alors, je tiens à préciser qu'ici, il s'agit effectivement d'un document qui est centré sur la Polynésie française et la problématique française du sujet, mais que d'autres pays ont pratiqué exactement les mêmes tactiques, ont opérer des essais nucléaires sur des populations civiles ou sur des militaires non informés de la dangerosité des effets nucléaires. Donc il ne s'agit pas ici de pointer du doigt un pays en particulier ou une pratique qui a heureusement cessé il y a quelques années déjà, mais il a fallu se battre pour que ça cesse d'une part, et pas uniquement dans le Pacifique, ça a été également le cas ici. Et d'autre part, évidemment, il faut continuer à travailler sur les conséquences de ces essais sur le long terme. Souvenez-vous, à l'époque de Jacques Chirac, président Jacques Chirac, on pensait que l'atoll de Mururoa risquait de s'écrouler, en fait, de disparaître, ou en tout cas d'être largement endommagé par les essais souterrains qui y étaient effectués. Les archives qui permettent de documenter le processus de choix du site se trouvent éparpillées en Polynésie, se trouvent éparpillées entre le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le service historique de la défense et la direction des applications militaires du Centre d'expérimentation du Pacifique, écrit Renaud Mels, mais aussi dans des témoignages oraux des décideurs que l'équipe constituée pour répondre à la commande publique a pu interroger lorsqu'ils ne l'ont pas été par les institutions elles-mêmes. L'irrégularité des réponses à nos demandes a été la règle, avant l'émotion suscitée en Polynésie par l'enquête de l'ONG Disclose sur les retombées des essais, enquête parue en mars 2021 sur la base des documents déclassifiés par décision de justice en 2012 suite à la plainte des associations de vétérans des essais. C'est pas des vétérans qui avaient fait les essais, qui avaient subi les essais, évidemment. Le gouvernement de la Polynésie française a su utiliser cette émotion pour obtenir les premiers jours pour obtenir l'ouverture des archives, demande satisfaite lors d'une table ronde réunie à Paris dans les premiers jours de juillet 2021. Mandaté à la fois par le gouvernement de la Polynésie et le gouvernement français, j'ai pu assister à la revendication, arbitrée par le président Macron, d'une déclassification massive sur la base d'une application loyale de la loi de 2008, écrit Renaud Mels. La promesse d'intégrer deux représentants de la Polynésie française à la commission de déclassification, commission constituée des membres S-qualité des armées et du CEA, a permis d'éprouver dès l'automne 2021 la vanité des refus qui nous avait été opposée depuis 2019. La commission a en effet travaillé sur la base des dossiers qui nous avaient été refusés pour aboutir à une déclassification dans 90% des cas. Si l'on avait, donc c'est un peu l'absurdité de ces refus qui ont été successifs et il a fallu une décision de justice donc pour obtenir la déclassification de documents qui n'étaient pas si importants que ça, comme nous l'écrit Renaud Mels. Si l'on avait le loisir d'écrire une histoire du secret entourant le CEP, écrit-il, les archives refusées avant la table ronde, s'avérant souvent anodines en dépit de leur timbre confidentiel, secret ou très secret, il faudrait documenter le processus aboutissant à un deuxième niveau de classification, matérialisé par un jeu de gommettes vertes ou rouges, accolé postérieurement à la production des textes en vue de demander des dérogations. Gommettes qui font gagner du temps au chercheur en signalant à son attention les pièces les plus sensibles. Ce processus historicise ce qu'une institution veut dissimuler selon les époques. Notre récit évoquerait les défaillances du contrôle a posteriori du secret, puisque des documents révélant les motifs et les modalités des dissimulations sont passés inaperçus dans des côtes autorisées à la consultation sur dérogation avant la table ronde. Le choix de communiquer les articles apparemment les moins sensibles, entre autres les moins susceptibles de dévoiler le secret d'État, parmi les 120 mètres linéaires de carton relatifs au centre d'expérimentation du Pacifique, dans le seul site de Vincennes, n'a pas empêché les bonnes fortunes. Nous avons trouvé, dès le début de notre enquête, dans un dossier anodin consacré à l'évaluation des coûts du CEP, le document le plus sensible de 3 années de recherche sur le sujet. Un modeste cahier d'écolier rempli de notes manuscrites où l'amiral Vedel, missionné pour évaluer l'opportunité de la construction d'un aéroport au Gambier, a enregistré au jour le jour ses échanges avec les responsables du CEP. L'effet de comparaison est saisissant avec le ton et les données du rapport officiel rédigé par le général Crépin, héros de la France libre et pionnier de l'atome militaire, en dépit du vif intérêt que ce document représente par ailleurs. Indépendamment de ce secret au deuxième degré, que nous apprennent les archives consultées par le secret entourant le choix du site sur les risques sanitaires liés aux essais. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir si le choix a été fait en fonction de la capacité de mobilisation de la population polynésienne. L'histoire du CEP, écrit Renaud Mels, permet de documenter le secret d'État à l'échelle fine d'une opération qui se déroule à 18 000 km des centres de décision métropolitains et les pratiques d'occultation des risques à l'échelle du commandement décentralisé. Le général Thierry, plus ou moins présent, et son adjoint sur place, le vice-amiral Lorrain, à l'échelle du CEP. Les bases avancées et les postes périphériques sur une emprise spatiale qui concerne l'ensemble de la Polynésie. Le général Thierry, rallié au principe d'une dissuasion française sans être gaulliste, s'amuse d'œuvrer sous le couvert du secret d'État d'après ses propres souvenirs. Suivre cet acteur méconnu du programme français permet de mesurer à l'échelle individuelle la façon dont le secret constitutif de l'affirmation de l'État moderne change de statut dans l'Europe de l'après-guerre. La résistance, puis la guerre froide, popularise le clandestin, le clandé des réseaux et des services, et en font un serviteur de l'État au même titre que le dépositaire de la sécurité nationale qui participe à l'élaboration de la force de frappe. Thierry, donc le général Thierry, incarne cette intériorisation valorisante du secret et transgresse le pacte de publicité démocratique. Il obtient des États-Unis des informations outrepassant le McMahon Act par des collaborations informelles avec ses homologues, mais aussi en mobilisant un vaste plan d'espionnage pour copier le modèle américain d'un centre d'essai océanique loin de l'expérience française au Sahara. Et donc le McMahon Act est un document qui interdisait aux États-Unis la publication ou la mise à disposition de documents classifiés donc par rapport aux essais nucléaires et à la politique nucléaire des États-Unis. Alors revenons au général Thierry. D'après une légende civile, il choisit le site polynésien à la faveur d'une mission de reconnaissance sous couverture, une recherche de terrain de déroutement pour l'aviation civile, et donc une couverture qui prend en compte l'opinion publique. Parti avec l'idée que la sensibilité des populations, soit leur capacité d'opposition, se trouvera également dans les territoires du Pacifique, Thierry revient en considérant que l'opinion sera plus capable de mobilisation en Nouvelle-Calédonie et en Australie qu'en Polynésie et à Pitcairn. Les politiques qui sont amenés à choisir parmi le catalogue de sites cartographiés par les militaires en sont réduits à valider l'unique proposition de la Polynésie française. De Gaulle en tire son parti, heureux de réaffirmer la présence française dans la région, sans craindre d'opposition majeure, tandis que les militaires arguant du précédent des sites anglo-saxons, théâtre d'essais plus ou moins contaminants, se réjouissent d'opérer dans un cadre tropical, alors que le centre d'expérimentation privilégiait la piste des Kerguelen. Les îles Kerguelen sont dans le Pacifique sud-ouest, disons ça comme ça. Ce sont des îles quasiment inhabitées, ou inhabitées une partie de l'année en tout cas, et où passent deux bateaux par an apportant et rapportant et renvoyant du courrier. Parce que figurez-vous qu'un peu à la lumière ou à l'imitation des Britanniques, on parle de Pitcairn par exemple, il y a une cinquantaine de personnes, 70 personnes qui habitent sur l'île de Pitcairn, et ils ont leur principal commerce, c'est la fabrication et la vente de timbres poste de Pitcairn. C'est un peu la même chose pour Kerguelen et quelques autres îles de l'Atlantique Sud, du Pacifique Sud, pardon. Les terres australes, les TAAF. Alors, il y aura un engrenage, dissimulation, mensonge, on nie les faits, on les entoure d'un secret militaire pour ne pas devoir avouer qu'on met finalement des populations en danger et qu'on le sait. Après le choix du site, le secret entoure le gouvernement du risque avant et pendant les essais atmosphériques. Écrit Renaud Meltz, au début de l'année 1966, les services de sécurité posent la question de la politique de communication à observer à ce sujet en demandant à Thierry, au général Thierry, donc, si la population doit être dès maintenant informée des dispositions arrêtées ou si les mesures prises doivent rester confidentielles. Tout à son illusion de maîtrise des risques, le général Thierry décide de ne pas sensibiliser les populations aux risques, persuadé qu'il saura relever les défis techniques avec un tir sous ballon pour éviter des retombées contaminantes. Depuis mars 1962, la section technique de l'armée prévoit qu'il faudra tirer à plus de 200 mètres d'altitude un engin de 100 kilotonnes pour éviter d'exposer les habitants des Gambiers à une dose supérieure à 5 millisieverts par an. Le secret opère en trois temps: sur les risques encourus en amont, sur les retombées avérées au Gambier dès le premier essai, dissimulé pour ne pas révéler les failles du dispositif, c'est-à-dire une mauvaise prévision, l'absence d'abri de protection, le choix de ne pas évacuer les riverains, et enfin sur les limites des remédiations apportées après la première campagne, c'est par exemple l'anticipation de la météo et des retombées, et ces remédiations ont été éprouvées dès 1967. La dissimulation des risques en amont, écrit Renaud Meltz, repose sur un excès de confiance que Thierry manifeste à l'endroit de ses supérieurs et des autorités civiles locales. Pendant les campagnes réduites, les puissances des tirs seront propres. C'est ce qu'il dit. Fin 1964, Thierry décrit les missions du service mixte de contrôle biologique créé pour l'occasion comme de pure forme. En vérité, il s'agit là, écrit-il, d'un faux problème. Les explosions étrangères, beaucoup plus puissantes que ne le seront jamais les nôtres, n'ayant jamais entraîné des conséquences sérieuses dans le domaine alimentaire. Le gouvernement des risques repose sur la prévision météo mise au point pendant 2 ans grâce à des stations terrestres, des piquets maritimes et des observations aériennes à haute altitude, dans une zone mal connue des météorologues, et sur le calcul des retombées des particules radioactives grâce à un ordinateur et à une procédure de modélisation obtenue aux États-Unis. Alors, on va parler de bikini là tantôt, avec la chanson de Rose Mania. Eh bien, il y a effectivement des erreurs d'appréciation, des changements de vent qui n'étaient pas prévus et qui ont exposé des populations dans le Pacifique, là, lors d'essais américains. Il a fallu évacuer en toute vitesse les populations vraiment exposées en première loge, disons, pour les essais nucléaires. Et donc, quand le général Thierry explique ici qu'il n'y a pas beaucoup de danger et que finalement il y aurait moyen de maîtriser les choses, c'est en ignorant probablement volontairement les problèmes connus et rencontrés par les Américains lors de leurs essais, qui étaient au fond des essais dans la même zone, vu d'ici bien sûr. Alors, ce dispositif mis en place en 60, dans les années 60, le dispositif est assorti de création de zones d'exclusion interdisant la circulation des personnes à proximité des sites d'essai. Encore une chance. Certains outils sont délaissés afin de ne pas signaler le risque à l'opinion. L'étude générale concernant la sécurité radiologique du CEP écarte, c'est une citation, une évacuation préventive des populations des Gambiers avant une explosion expérimentale. Pour des motifs politiques et psychologiques, la mise sous abri des populations est repoussée aux Gambiers, malgré les recommandations de la commission consultative de sécurité présidée par Francis Perrin, le haut commissaire du Centre d'expérimentation du Pacifique, en février 1966. Le général Thierry choisit de passer outre pour les habitants des Gambiers, considérant que le risque y est minime. Une date de fin des travaux, début septembre, suffirait, écrit-il. Or, 3 impondérables démentent la prévision dès l'essai d'Aldébaran déclenché à l'aube du 2 juillet 1966. La date du tir, retardée de 24 heures par un problème dans le dispositif de mesure, la puissance inattendue de l'explosion et partant la dimension du nuage, les vents enfin à l'altitude où le nuage se meurt, les retombées aggravées par la pluie qui arrose les Gambiers dans la nuit du 2 au 3 juillet sont mesurées là où vivent les Mangaréviens. Ils n'en sont pas informés. L'évacuation curative n'est pas utilisée. Non par faute de moyens, des barges de débarquement étant disponibles, mais pour les mêmes raisons politiques, éviter une émotion risquant de remettre en cause la poursuite des essais. Le VA Lorrain, qui commente les essais, s'en explique à l'amiral Vedel, venu inspecter le CEP à mi-campagne. Problème politique important, car peut remettre en cause les tirs nucléaires au Pacifique, écrit-il, et même la présence française dans le Pacifique. Le secret n'est pas absolu, l'information circule, du fait de l'intégration des Polynésiens à tous les échelons du CEP, mais les conséquences sanitaires de ces retombées demeurent obscures à ceux qui ont eu connaissance des retombées, y compris au chef de poste de Mangareva, un appelé du contingent. Les effets sont contradictoires. Des politiques de rémédiation pour les campagnes suivantes. Moins de tirs chaque année pour jouir de meilleures fenêtres météo grâce aux tirs sous ballon. Nouveaux moyens de prévision météo et de suivi des retombées avec la construction d'une piste au gambier. Et le maintien du secret, modulé par une banalisation du risque. Le secret s'assouplit avec un fort décalage dans le temps entre les échecs et leur divulgation. Les responsables attendent que les politiques des remédiations soient devenues opérationnelles et qu'elles aient permis de réduire les risques. 6 ans après l'abandon du tir sur barge au profit du ballon, 1 an avant la première campagne d'essais souterrains, Le Monde, le journal Le Monde, évoque pour la première fois l'échec d'Aldébaran. Une seule fois, écrit Le Monde, il y a 6 ans, semble-t-il, des retombées imprévues ont été enregistrées dans les îles Gambier, à 500 km de Mururoa, le nuage de l'explosion ayant atteint une altitude plus élevée que ne l'avaient imaginé les techniciens. Ce tir avait eu lieu depuis une barge dans le lagon où l'engin était entreposé et cette méthode a été abandonnée depuis au profit de celle du ballon qui supporte la charge. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui avec ce texte. On est quasiment à la fin parce qu'il n'analyse que les débuts des... Donc quand je dis « il », c'est Renaud Mels dans son étude « Triste secret », pas « Triste tropique », « Triste secret ». Donc son étude est consacrée à ses premiers essais et on est de toute façon quasiment à la fin de ce texte. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de La musique adoucit les mœurs, que cette émission vous est proposée tous les vendredis de 9 à 10 heures et est rediffusée le lendemain, le samedi de 14 à 15 heures. Et bien sûr, c'est sur Radio Air Libre. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures.